Les matins de France Culture, jusqu'à 9h, Guillaume Erner.
Extension de la circulation différenciée, interdiction de certains véhicules, des logements mal isolés, ces fameuses passoires thermiques. Progressivement, les dispositifs de lutte contre le réchauffement climatique se mettent en place, mais dans son rapport rendu public hier, le Haut Conseil pour le climat juge l'action gouvernementale largement insuffisante au regard de l'urgence climatique et des objectifs fixés en France. Est-il possible de faire plus avec évidemment un contexte de restrictions budgétaires? Bonjour Sébastien Treyer. Bonjour. Vous êtes directeur général de l'IDRI, l'Institut du Développement Durable et des Relations Internationales. Alors, pour les experts du rapport du Haut Conseil pour le climat, à ce rythme, la France n'a aucune chance d'atteindre la neutralité carbone en 2050, l'objectif visé. Quel est cet objectif? En quoi consiste-t-il?
L'objectif, on l'appelle neutralité carbone. Et ce que ça veut dire, c'est que tous les secteurs et tous les territoires doivent arriver à zéro émission de gaz à effet de serre à partir de 2050. Et s'il y a des émissions de gaz à effet de serre résiduelles, il va falloir trouver des puits de carbone pour les compenser. Mais c'est vraiment le résiduel uniquement.
Mais alors, comment aboutir à un tel résultat, sachant que des émissions de carbone, il y en a dans chaque voiture, dans chaque cheminée?
Alors, ce que dit le rapport, il dit aussi que les émissions de gaz à effet de serre diminuent, mais elles diminuent pas assez rapidement. Donc, c'est important aussi de mettre le contexte, hein. Et notamment pas assez rapidement dans des secteurs clés comme les transports, l'énergie, l'agriculture, où on n'a pas enclenché ce qu'ils appellent des transformations structurelles.
Lesquelles? C'est bien de... Justement, quelles sont ces transformations structurelles qu'il faudrait essayer de conduire aujourd'hui? Alors déjà, au niveau des véhicules, j'imagine que cela signifie uniquement des véhicules électriques.
Ça, c'est ce qu'il faut avoir à terme. Et je pense que l'important, c'est d'essayer de comprendre comment on peut aider les ménages, notamment les ménages les moins dotés, à dépenser moins d'énergie dans leur véhicule ou dans leur logement. Et pour ça, je pense que même à budget constant, parce que c'était votre question de départ, on peut trouver des moyens de faire mieux que ce que le gouvernement fait aujourd'hui.
Par exemple?
Je pense qu'un des points centraux sur la rénovation énergétique du bâtiment, c'est de se dire qu'il y a en fait beaucoup d'aides financières. Elles sont très mal connues et elles sont difficiles d'accès. Les dispositifs sont diversifiés, un peu hétérogènes, et donc on pourrait se mettre dans une logique de marketing de ces aides financières pour que les ménages qui en ont besoin soient capables d'y accéder. Et en Allemagne, par exemple, le gouvernement a décidé de laisser les banques commerciales rassembler toutes ces informations pour aider les clients à prendre un crédit pour changer leurs fenêtres, rénover leur maison pour le rendre, pour éviter que ça soit une passoire énergétique.
Mais ça suffirait parce que, donc, alors, au niveau de l'isolation, évidemment, on vous suit, mais pour le reste, il faut évidemment changer les systèmes de chauffage, notamment les chaudières à fioul, avec beaucoup de ménages qui se sont équipés il n'y a pas si longtemps avec des chaudières à fioul qui fonctionnent fort bien pour la plupart. Donc, vous pensez qu'il est possible de les changer avant que celles-ci n'arrivent au terme de leur existence?
Ça, c'est tout le problème. Il faut essayer de les changer suffisamment vite. Et je pense que, dans un rapport précédent, à l'IDRI, on proposait l'idée de, comme d'autres think tanks, d'une prime de transition écologique, notamment pour les ménages qui se sont endettés, qui ont des problèmes, elles seraient ciblées sur les ménages les plus pauvres. Quand on dit une prime, on a l'impression que ça va gréver le budget de l'État, mais il nous semble qu'il y a des dispositifs où on pourrait flécher une taxe sur le kérosène, si elle se met en place, vers précisément ce type de transformation au service des ménages les plus pauvres.
Oui, c'est votre si qui me fait réagir, parce qu'effectivement, on sait que pour inciter les entreprises, cette fois-ci, à ne pas utiliser certains carburants qui sont particulièrement polluants, il faudrait mettre des taxes. Alors, on a, par exemple, vu ce que c'était devenu avec le gazole non routier, c'est-à-dire celui qui est utilisé par le BTP. À ma connaissance, aujourd'hui, il n'y a rien de mis en place. Vous confirmez?
Je ne peux pas vous le confirmer.
Bon, j'ai l'impression, en tout cas, que c'est un sujet extrêmement sensible. Ça, c'est une certitude. Mais en tout cas, aujourd'hui, si on ne met pas en place ces taxes, comment faire pour inciter ceux qui utilisent du gazole dans leur bulldozer, ceux qui finalement continuent à utiliser des carburants polluants, d'ailleurs, parce qu'ils n'ont pas tellement le choix?
Je pense qu'il y a, des moyens qui sont d'essayer de donner un horizon ferme, mais à moyen terme, de à quel moment ce type de carburant ne sera plus utilisable, et ensuite de voir comment on peut aider un certain nombre d'entreprises à changer de carburant. Hein. Évidemment que ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais ce qu'il faut donner, c'est le bon signal à moyen terme, et ensuite enclencher des dispositifs qui permettent de changer. Il y avait un autre point que moi je trouvais important aussi dans ce que l'État peut faire, c'est que il y a des grands à budget constant de nouveau. Il y a des grands projets structurants d'investissement, il y a des lois sur la concurrence en matière de transport, par exemple, sur le ferroviaire, qui sont aujourd'hui analysées en matière de, pour leur impact environnemental, au sens de combien d'émissions de gaz à effet de serre ça produit ou pas. Mais ça ne dit pas comment est-ce que ces grands projets ou ces projets de loi vont avoir des impacts structurants sur l'aménagement du territoire. Mmh. Et c'est l'impact structurant, les effets indirects sur l'aménagement du territoire qui sont déterminants, parce que c'est ensuite comme ça qu'on peut avoir des ménages ou des entreprises qui sont coincées dans l'incapacité à changer si on leur a donné une indication ou si on a construit une infrastructure qui les installe.
Alors donnez-nous des exemples, Sébastien Treyer.
Mais je pense qu'il y a un exemple qui me semble assez concret sur les ménages, c'est la manière dont l'étalement urbain, par exemple, dans je crois que c'est le département de l'Hérault qui voit un étalement urbain complètement massif. Si on arrivait à mettre en adéquation l'aménagement du territoire avec les objectifs climatiques, on aurait des villes qui seraient un peu plus resserrées et qui dépendraient moins.
Ça va pas être évident, hein.
Ça va pas être évident, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des choix déterminants qui sont faits pour des grands projets d'investissement d'infrastructures dans notre pays qui a les moyens de se payer ces grandes infrastructures, et c'est très bien. Il faut qu'elles soient pensées de telle manière à ce que, à long terme, elle ne nous embarque pas dans des trajectoires où on dépense plus encore d'énergie fossile.
Et puis alors, on a parlé des ménages modestes, on a dit qu'il fallait des aides pour eux, mais ça veut dire que les classes moyennes, qui elles aussi sont souvent dans un état de colère ou un peu grognonnes face aux taxes, ça veut dire qu'elles vont devoir supporter l'intégralité de la dépense, Sébastien Treyer ?
Non, moi je pense que c'est pas ce qu'on propose dans notre histoire de prime de transition écologique. C'est pas il y a la question des ménages qui sont les plus vulnérables, pour lesquels il y a des questions de précarité énergétique et des aides sociales qui existent déjà et qu'il faudrait peut-être
rassembler, rendre plus lisible.
Mais par ailleurs, ce qu'on appelle prime de transition écologique, c'est d'essayer de la rendre progressive, au sens où elle aide plus les ménages qui en ont le plus besoin et moins les ménages les plus riches. Mais il s'agit pas d'interdire les classes moyennes de l'obtenir.
Est-ce que vous voyez un ou des pays modèles dans ce domaine-là dont la France pourrait s'inspirer en conclusion, Sébastien Treyer ?
Je suis pas sûr qu'il soit facile de transférer des modèles. J'ai l'impression qu'il y a des choses à prendre dans plusieurs pays différents. Ce qui était raconté sur Berlin tout à l'heure me semble quelque chose de très intéressant. Donc on peut piocher des solutions dans différents types de pays. Je suis pas sûr qu'un pays ait trouvé la solution définitive.
Merci Sébastien Treyer. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'IDRI, autrement dit l'Institut du développement durable et des relations internationales.